Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de prendre place, que ce soit ici ou dans votre salon. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant et le fardeau que je vous propose est léger. J'ai regardé un petit peu ce que voulait dire fardeau et joug, parce que des fois, voilà, je pense savoir des choses, mais je me suis dit, si je devais l'expliquer à quelqu'un, je préfère regarder dans le dictionnaire. Donc les deux veulent un peu dire la même chose, hein. Le fardeau, c'est une chose pénible qu'il faut supporter. Ça peut être quelque chose de physique, hein, mais ça peut aussi être quelque chose qu'on a sur le cœur, dans notre âme, quelque chose de pénible qu'il faut supporter. Et puis le joug, alors c'est voilà, une pièce aussi physique, mais on peut aussi le comprendre comme une contrainte matérielle ou morale. Je trouve intéressant. Donc je vous le relis encore une fois. Une chose pénible qu'il faut supporter ou une contrainte matérielle ou morale. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. C'est Jésus donc qui dit cela à ses disciples, et puis cette invitation nous est aussi étendue ce matin. Donc soyez les bienvenus ce matin. Nous le répétons chaque dimanche, hein, soyez les bienvenus. Et puis parfois, quand on répète quelque chose, ben, ça nous passe un peu à côté. Je ne sais pas comment c'est pour vous, moi, que des fois, on se met des post-it pour se rappeler des choses. Et puis on le voit le premier jour, le deuxième, puis après quelques jours, en fait, il fait partie du décor et on ne le lit même plus. Donc ce qui devait être un rappel, ben, ça ne marche plus. Et ça peut être un peu comme ça. Quand on vous dit bienvenue, on se dit oui, ok, bienvenue, voilà. Passons à la suite. Non, vraiment, prenez conscience que le Seigneur vous accueille ce matin. Que vous soyez dans la joie ou dans la tristesse, que vous soyez là par habitude, ou en visite pour la première fois, ici présent ou devant un ordinateur, rempli de foi et de confiance en Dieu, ou rempli de doutes, blessé, fatigué, Dieu nous accueille tels que nous sommes. Une des choses que j'ai apprises ces dernières années, c'est être vrai devant Dieu. C'est étonnant, n'est-ce pas? Nous croyons qu'il connaît tout de nous. Hein, souvent, si on se posait la question, on dirait oui, on sait, Dieu connaît tout, il connaît nos pensées, il connaît notre cœur, il connaît notre avenir. Et pourtant, parfois, quand on prie, on fait encore un peu semblant. On lui cache des choses, on ne lui parle pas honnêtement. Je ne sais pas si certains se retrouvent là-dedans. En tout cas, moi, c'était le cas. Et puis, j'ai dû apprendre à vraiment lui dire honnêtement ce qui se passe dans ma vie, même s'il le sait déjà. Et en fait, ça, voilà, ça m'a fait du bien de pouvoir être honnête comme ça avec lui. Dans la Bible, on voit David, hein, qui fait beaucoup ça. Il parle de manière très forte, très brute, de tout ce qui vit à Dieu. Et Dieu ne s'en offusque pas. Au contraire, il accueille cela. Alors ce matin, soyons vrais devant Dieu. Ne faisons pas semblant d'être dans la joie, d'être dans la paix, d'être plein de foi. Tant mieux si c'est le cas. Mais Dieu nous accueille quel que soit l'état de notre cœur, quel que soit notre état de fatigue ce matin. Il nous aime et il nous accueille. Alors soyez accueillis ce matin. Nous allons avoir quelques annonces maintenant. Et quand je dis quelques, c'est plus que d'habitude. Alors on a une règle et j'en parlerai tout à l'heure. On essaye de réduire les annonces depuis quelques mois, vous l'aurez peut-être remarqué. On a plein d'endroits où on peut, voilà, communiquer. Et puis, on essaye de réduire le nombre d'annonces qu'on fait au micro. Mais voilà, c'est comme dans le design, une fois qu'on connaît les règles du design, on peut se permettre de parfois enfreindre les règles. Et ce matin, je vais enfreindre la règle avec pas mal d'annonces. Donc, merci pour votre patience et merci surtout de prendre note de tout ce qui va être dit. Pour commencer, j'aimerais inviter Annick et Xavier à me rejoindre. Ils ont deux annonces à nous faire. Et en plus, ils ont du matériel qui est préparé.
Vous connaissez tout ça? Vous avez tout vu? pardon. Bonjour. Vous avez tous vu ce panneau ? Vous avez tous vu ce panneau ? Hein ? Est-ce que vous savez ce que veut dire ce grand chiffre ? C'est le nombre de paquets que vous avez fait. Merci. C'est trop bien. On est trop heureux. On a eu 28 paquets pour les enfants, 30 pour les adultes. Pourquoi 30 pour les adultes et que 28 pour les enfants, entre guillemets ? C'est qu'en fait, on a eu des dons en espèces et qu'au lieu de les utiliser pour le transport, on s'est dit qu'on allait les utiliser pour faire la balance entre les enfants et les adultes. Et puis du coup, c'est les adultes qui en ont eu plus. Voilà, c'est comme ça. Je voudrais aussi remercier toutes les tricoteuses, vous avez été super. On a pu mettre un tricot dans chaque paquet et ça vraiment c'est un grand merci. Et puis pour le transport, merci infiniment à l'équipe transport qui va transporter ces paquets dans la semaine. Et puis je vais appeler Paul Robert parce qu'on aimerait bien remettre ce transport, tous ces paquets pour les familles, les enfants, les remettre au Seigneur. Puis alors, je vous avoue quelque chose, c'est qu'avec Xavier, on est nul en prière par orale devant tout le monde. Donc voilà, j'ai demandé à Paul Robert, parce qu'en fait, c'est notre lien pour la mission. Et puis, on aimerait bien faire corps avec l'action mission. Et je pense que toute sa place en tant que responsable de ce groupe mission, voilà. Et c'était à lui de nous aider pour faire cette prière, pour que ces familles soient encouragées, qu'elles soient bénies au travers de ces paquets. Voilà. Si j'ai oublié de remercier certaines personnes qui nous ont aidés, oui, j'aimerais vous remercier tous, parce qu'en fait, que ce soit du plus petit au plus grand, vous nous avez aidés à faire les paquets et on n'a jamais eu besoin d'en refaire. Plus tard dans la semaine, oui, une fois pour Trico & Co, on a fait des paquets, mais vraiment, vous nous avez permis de mettre ça en paquetage dans les temps. Merci beaucoup.
Merci. Alors, nous n'allons pas bénir les paquets, mais nous allons prier en bénissant tous ceux qui ont participé à cette préparation, à ce transport qui va venir, et surtout pour ceux qui vont recevoir ces paquets. Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nos remerciements vont premièrement à toi qui es maître de toutes choses, qui dirige toutes choses, et qui met dans nos cœurs l'envie, le désir, de participer à ton œuvre. Oui, nous voulons te remercier pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, du plus petit au plus grand, ont participé à la préparation de ces paquets de Noël, ces cartons, ces cadeaux. Nous voulons te remettre le transport de ces cadeaux jusqu'à destination, sachant que c'est toi qui veilles là-dessus aussi. Et puis nous voulons te remettre tout spécialement, tous ceux qui vont bénéficier de ces quelques biens, de ces quelques petites choses, quelque part, que nous pouvons leur transmettre avec cet amour que tu nous donnes et qu'ils puissent reconnaître aussi là-haut, par cela, ton amour manifesté par ton Église et ceux qui te suivent. Alors, Seigneur, sois loué, béni et merci d'accompagner, de garder et de bénir tout cela. C'est en ton nom que nous prions. En Jésus-Christ. Amen.
Prochaine annonce. Je commence, puis après je te donne la parole. Ça. Voilà, merci beaucoup encore une fois à vous tous qui avez participé. La prochaine annonce concerne la fête de Noël. On vous l'a déjà dit, on vous le redit, ça sera le dimanche 14 décembre à 15h. Attention, si vous venez le matin, il n'y aura pas de culte. Et on vous le redit aussi encore une fois, c'est vraiment une belle opportunité pour inviter. Okay, tout va être fait pour que des gens qui connaissent peut-être pas bien la foi chrétienne soient à l'aise. On va soigner l'accueil, on va soigner ce qui va être dit depuis la scène, on va essayer de pas utiliser des mots trop compliqués, pas de patois de Canaan. Et puis il y aura un goûter incroyable et vous allez participer à cela. Donc voilà, c'est vraiment une belle, une bonne occasion pour inviter peut-être des collègues, des voisins, des amis qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir dans une église, mais ça vaut le coup de, voilà, d'essayer de les inviter et puis de passer un bon moment ensemble. Et je vais laisser la parole à Xavier pour tout ce qui est du goûter.
Bonjour à tous. Donc effectivement, on va mettre un goûter en place. Alors, vous avez deux façons de nous aider. La première façon, c'est de prendre un petit pot comme ça, dans lequel on pourra faire des mets qu'on va pouvoir prendre à la main. Donc chacun peut prendre un petit pot pour pouvoir aider. Et puis les rouges, c'est pour le salé. Donc les jaunes, sucrés, les rouges, salés. Donc quand il n'y en aura plus, ben, ça sera fait. Tout le monde aura pu, à ce moment-là, donner quelque chose. Ça sera très bien. La deuxième chose qu'il va nous falloir, ça sera des équipes. J'ai besoin d'une équipe encore pour le rangement. Donc il faudra me voir, c'est deux personnes. J'ai encore besoin de deux personnes. Un peu costaud. Et puis des équipes. Et là, c'est plutôt pour réceptionner les biens, tout ce qui va être mis, tout ce qui va être apporté à 14h30, vers 14h30, 14h45. Il nous faudrait des gens en cuisine pour pouvoir ranger, mettre dans les frigos, préparer en fait pour le goûter, que le goûter soit bien, bien, bien préparé. Il faut venir nous voir et à la sortie, on va vous proposer donc les petits pots à prendre. Et Annick et moi, on sera là pour vous guider, pour vous donner toutes les informations. Et on affinera ça au fur et à mesure qu'on approchera du 14. Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci d'organiser tout cela. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voir Annick et Xavier à la fin du culte et de prendre votre petit pot si vous n'en avez pas encore un. Merci d'avance. Un autre appel, construire la Bible en Lego le samedi 13 décembre, donc c'est le jour avant, et ce n'est pas pour rien qu'on a fait ça comme ça, il y aura un lien entre les deux. Entre 14h et 17h, pour les enfants de 6 à 12 ans, on demande différentes participations aux frais, et puis ben, le thème de se construire en Lego, ça sera la nativité. Pour ceux qui étaient là l'année passée, les enfants, voilà, on leur raconte l'histoire, la nativité, puis ensuite c'est découpé en plusieurs scènes, et puis chaque groupe d'enfants fait une scène en Lego. Et franchement, moi, j'avais été bluffé par ce qui avait été fait l'année passée. C'était super chouette de voir ce qu'ils ont fait, la créativité. Voilà, c'était super chouette. Donc, si vous avez vous-même des enfants ou peut-être vous connaissez des enfants dans votre entourage qui aimeraient faire ça, il y a encore de la place. Vous pouvez vous adresser directement à Rebecca. Rebecca qui, peut-être vous l'aurez remarqué, il y a peu d'enfants ce matin. Ils sont tous à la chapelle. Ils ont leur culte, le culte R3 Potes. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Vous les verrez sûrement débarquer à un moment donné à la fin du culte. On n'espère pas avant qu'on ait fini, sinon c'est qu'on était un peu trop long. Mais voilà, ils sont tous là-bas. Une annonce sur la communication et les annonces. J'en ai déjà fait une il y a quelques temps, je vous en refais une. Ce n'est pas toujours facile de comprendre hein, comment on fonctionne en tant qu'église, comment on communique. On vit dans un monde qui communique beaucoup, puis en même temps on est un peu submergé et les infos se perdent tellement on en reçoit. Donc voilà, je vous refais un petit résumé, une petite vue d'ensemble de comment on communique et comment vous pouvez aussi communiquer si vous avez envie de dire quelque chose plus largement à l'église. Donc on essaye, comme j'ai dit avant, de limiter au maximum, en général, les annonces au micro le dimanche matin. On a envie de laisser de la place au chant, de la place à la parole, la place aux choses qui nous semblent les plus importantes. Et c'est vrai que voilà, quand on a l'habitude hein, d'avoir eu beaucoup d'annonces, c'est la vie d'église aussi, ben voilà, il faut s'y habituer, c'est pas forcément évident, mais c'est un choix qu'on a fait. On a plein d'autres moyens de communiquer et puis on limite ce qui est dit au micro le dimanche matin. Notre moyen de communication principal, c'est l'actu Mérin. Okay, donc si vous dites j'ai l'impression de louper des choses, c'est peut-être parce que vous ne recevez pas l'actu ou peut-être parce que vous ne le lisez pas. Je ne vise personne, mais il y a la moitié des gens qui ne le lisent pas. Hein. C'est l'avantage, j'ai des statistiques. Voilà. En tout cas, ils n'ouvrent pas le mail. Après, peut-être vous avez un moyen de le lire sans l'ouvrir. Mais... Donc si voilà, vous dites, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, ce n'est pas ma faute. Okay, donc, l'actu Mérin, c'est vraiment le lieu où il faut aller si vous voulez toutes les infos. Le site web aussi, Barbara fait un super travail. Toutes les dates, tous les événements, ils sont là. Donc là aussi, c'est une ressource où vous pouvez aller chercher des infos si tout à coup vous avez un doute ou que vous ne vous souvenez pas de quelque chose. Ensuite, il y a aussi le groupe WhatsApp. Il y a deux groupes WhatsApp. Un groupe officiel où c'est que l'équipe pastorale qui va annoncer des choses. On en annonce un petit peu moins que sur l'actumérin quand même pour ne pas vous submerger de messages. Mais ça va être des petits rappels ou des choses urgentes à annoncer sur le groupe WhatsApp. Et puis, il y a un autre groupe WhatsApp qui s'appelle le groupe Partage, qui avait été démarré, je crois, par Daniel Strubin à l'époque. Et là, c'est ouvert à tous et vous pouvez communiquer comme vous voulez, autant que vous voulez. Donc, si vous avez envie de parler peut-être d'un événement qui est à côté de chez vous, ce n'est pas forcément pertinent de l'annoncer ici le dimanche matin, eh ben, c'est un très bon endroit pour le faire, si jamais. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie de rejoindre ces groupes. Et maintenant, si vous avez une annonce à faire passer, comment ça se passe ? Ben, c'est très simple, en fait. Vous venez vers moi ou vous m'écrivez un petit mail, un WhatsApp, et puis vous me dites, voilà, j'aimerais faire une annonce. Est-ce que c'est possible ? Ok ? J'aimerais bien que ça se fasse, si possible, au moins une semaine à l'avance. Parce que moi, je prépare mes annonces, je prépare l'actumérin, toujours au moins une semaine à l'avance. Donc, si vous venez le jour avant ou le dimanche matin, quand je suis en train de me préparer, c'est pas impossible, mais je risque de vous dire non. Ok ? Parce que, voilà. Autant que possible, venez à l'avance et puis posez la question. Et ensuite, eh bien, je vais décider si ça sera annoncé ou pas. Et s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés avec moi si je vous dis non. On a des raisons, on a mis en place un cadre avec l'équipe pastorale, avec le conseil. Et on ne peut pas tout annoncer, il faut bien le comprendre. Il y a plein de belles choses qui se passent, hein, que ce soit ici à Mérin, que ce soit sur Genève ou plus loin. On ne peut pas tout annoncer. Donc on fait des choix. On ne sera pas toujours d'accord avec les choix qu'on fait. Si vous ne comprenez pas les choix, vous pouvez poser des questions, on vous explique volontiers. Mais voilà, on pousse les gens aussi à chercher l'info qui les intéresse. Donc si vous vous intéressez à une mission en particulier, inscrivez-vous à la lettre de nouvelles. Okay, il n'y a pas besoin qu'on ait tout à la réception. Okay, là aussi, vous avez vu, on a pas mal réduit les choses. On met les choses qui nous concernent au plus près, de la frais, peut-être du réseau évangélique, avec nos partenaires ici sur Mérin, le CEPOM. Au-delà de ça, on ne va pas forcément communiquer. Mais il peut y avoir des exceptions. C'est comme je disais avant, on a les règles et après il peut y avoir des exceptions. Okay ? Donc n'hésitez pas, vous avez une annonce à passer, contactez-moi le plus en avance possible et puis on verra où est-ce qu'on passe ça, si c'est à l'écran là dehors ou bien si c'est au micro ou dans l'actumérin. En parlant de l'actumérin, ceux qui l'ont lu la semaine passée, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un sondage. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu, merci d'aller regarder cet actumérin, c'est assez important. C'est un sondage sur le temps de prière communautaire que nous avons chaque mois. Voilà, on se questionne, on a changé de format, ça convient à certains, ça convient moins à d'autres. On essaye de trouver le bon format pour vivre ces temps de prière communautaire. Et puis, on s'est dit avec Philippe, pourquoi pas vous questionner, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Donc, c'est très court, ça prend, je pense, 2 minutes. Allez cliquer sur le lien qui est dans l'actumérin. Et puis, si vous n'avez pas accès à ça, venez vers moi, on trouvera un moyen de vous faire participer au sondage. Mais voilà, c'est important que le plus grand nombre participe, parce qu'il n'y en a que 10, 15 personnes, ça ne sera pas représentatif, et puis on ne sera pas très avancé. Merci d'avance. Le parking, là aussi, on communique régulièrement par rapport à ce parking. Vous le savez, on a très peu de place derrière l'église, ce n'est pas évident, il faut bien se serrer, les voisins râlent parfois. Etc., etc. On aimerait vous encourager autant que possible, si vous êtes valide, si vous arrivez à marcher un petit peu, à vous parquer soit dans les zones bleues ici autour, soit dans les parkings souterrains. Il y en a un à Mérin Village, il y en a un au Verger, pour laisser la place aux visiteurs et aux personnes à mobilité réduite. Okay, c'est important que si quelqu'un vient, nous visite, peut-être arrive un petit peu en retard, qu'il puisse trouver une place et qu'il ne doive pas... tourner dans Mérin, essayer de trouver une place. Donc, autant que possible, on vous encourage à vous parquer ailleurs, vous qui connaissez bien comment ça se passe, et puis à faire un petit peu de marche pour laisser la place à ces gens-là. On vous rappelle aussi qu'il ne faut vraiment pas se parquer chez les voisins, où il y a des parkings privés. On essaie de soigner nos relations avec les voisins, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, ça nous aide si on fait attention à ces petites choses-là. Claude, merci de venir. Encore pour une petite annonce concernant la kermesse. Et puis le groupe de louange, vous pouvez déjà venir volontiers. Merci. Et Denise, ça sera à toi après.
Merci. Alors simplement, au nom de la kermesse œcuménique, j'aimerais remercier vraiment toutes celles et ceux de l'EM qui ont participé à cette kermesse de façon ou d'une autre. Je crois que c'était un beau témoignage qu'on a eu. On a pu vendre pour plus de 500 francs de littérature qui parle de Jésus. Donc il faut vraiment prier aussi que ça aille que c'est un témoignage et puis que ça aille du succès, que ça rentre dans les cœurs. Donc je voulais simplement vous remercier toutes celles et ceux qui ont contribué, que ce soit par la prière, la présence ou une autre façon. Merci à vous, c'était très chouette et je crois que nos églises sœurs sont très reconnaissantes par rapport à votre travail qui a été fait durant ce week-end. Donc merci beaucoup.
Merci, très bien.
Bonjour, je ne viens pas avec une bonne nouvelle. René Drau, que certains parmi vous ont bien connu, est décédé dimanche dernier. Philippe l'avait visité quelques jours avant son départ pour la Thaïlande. Dora, la femme de René, et René ont été longtemps membres de notre église, pour ceux qui ne le connaissent pas. René était un homme discret, il a assuré le service de la préparation de la Sainte Cène et de sonner les cloches pendant de longues années, d'abord à la chapelle où il faisait aussi la sono, si vous vous souvenez, et puis aussi dans ce bâtiment. Nicole, la fille de Dora, avec qui j'ai eu un contact, m'a dit que Dora allait pour le mieux. Elle a déménagé ce vendredi à l'EMS des Charmilles. Donc nous sommes dans la tristesse avec toute cette famille et nous les confions à Dieu qui s'est consolé. La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 18 novembre à 10h30 au temple de Saint-Gervais. Elle sera conduite par le pasteur Patrick Beau dans l'absence de Philippe. Merci.
Merci. Je vous invite à prier pour la famille. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de prier, peut-être ? Sinon, je le fais moi. Seigneur, dans ces temps difficiles et compliqués, nous voulons te remettre toute la famille, Dora et les enfants, les petits-enfants, tous ceux qui sont affectés par ce décès. Merci de les entourer, merci de les porter. Merci de les consoler, Seigneur, qu'ils puissent vivre pleinement ce temps dans ta présence et que tu conduises toutes choses, Seigneur, dans chaque détail, que tu sois présent et avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je suis au bout de mes annonces. Merci d'avance à l'équipe de louange.
Alors voilà, merci. Eh bien, on va chanter ensemble maintenant. Et les deux premiers chants, c'est des chants de confiance. Et je crois que René Drau, il a toujours montré sa confiance en l'Éternel. Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Avez-vous cette confiance en Dieu, cette confiance en Jésus? Peut-être que parfois on peut avoir des doutes, des questionnements. Alors, sans faire tout un message, parce que je laisserai ça à Mélina tout à l'heure, mais quand même deux mots qui me sont apparus en préparant ce moment de louange sur l'histoire de Job qui nous est racontée dans la Bible. Job, c'est un homme qui a vécu beaucoup de souffrances, qui a tout perdu matériellement, qui a perdu la santé, qui vraiment a beaucoup souffert et qui s'est posé la question. Et tout le livre de Job dit « Pourquoi j'ai souffert ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi donc ? Pourquoi suis-je sur terre ? À quoi bon ?» Alors, toutes ces questions, il les a posées au Seigneur, puis le Seigneur, il lui a répondu ces deux chapitres. Je ne vais pas vous lire les deux chapitres, mais un extrait des chapitres 38 à 42 du livre de Job, sur la manière que le Seigneur lui a répondu. Alors, au sein de la tempête, donc quand il était au plus bas, dans le trou, l'Éternel répondit à Job par des questions. Où étais-tu quand je posais les fondements du monde ? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui a enfermé l'océan en lui disant « C'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin. Ici s'arrêteront tes flots impétueux. » As-tu visité les greniers qui recèlent la neige et les dépôts de grêle ? Les as-tu vus ? qui ouvre le passage pour les torrents de la pluie, pour arroser les solitudes et les régions arides, pour faire germer l'herbe et pousser la verdure. Fais-tu paraître les constellations en leur temps ? Conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires ? Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit ? Qui a la compétence pour compter les nuages et qui peut incliner les amphores du ciel ? Serait-ce toi qui donnes la puissance au cheval ? Serait-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il déploie ses ailes en direction du sud ? Face à toutes ces questions, Job répondit alors à l'Éternel : « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et je crois. » Dieu répond par des questionnements, et peut-être parfois vous êtes aussi face à des questionnements. Mais j'aimerais vous encourager à chanter tous ensemble des chants de confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Et je crois en toi, Seigneur.
Que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, parce que tu comprends bien. Tout puissant, C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Je
Bonjour à tous. Alors j'ai le micro, je peux faire ce que je veux. Je vais en profiter pour dire bonjour aussi à ma famille qui me regarde depuis l'Alsace, ça me fait très plaisir. Et alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélina et je suis membre depuis maintenant quelques temps de cette église. Ce n'est pas la première fois que je fais une prédication et je suis toujours autant stressée. Alors, attendez le PowerPoint. C'est très gentil, merci. Ah voilà. Alors, je travaille à l'Université de Fribourg en tant qu'assistante des professeurs et doctorante. J'ai commencé en septembre 2025, ça fait donc 2 mois, avec énormément d'énergie et d'enthousiasme, aucune crainte. Et alors que j'étais en réunion, je pense que ça devait être la 2e réunion que j'ai faite avec mon directeur de thèse. Je lui ai demandé comment ça va et il m'a dit « Mélina, fais attention, faut pas que tu te fatigues trop dès maintenant parce que le mois de novembre, il est fatigant. » Et je me suis dit, il est extrêmement prévoyant, puis ça fait 2 semaines qu'on se connaît. Et je me suis dit, bon, ben voilà, enfin, on est en septembre, prenons le temps d'accueillir les choses. Mais non, lui, il réfléchissait déjà, il était là, le mois de novembre, il est fatigant. Alors maintenant, on est au mois de novembre, et devinez quoi ? Il avait un peu raison, hein, puisque je suis fatiguée. Grande surprise. Et alors, en résumé pour ce matin, comme vous pouvez le voir sur le titre, on va parler du mois de novembre. Et alors, je sais que dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, surtout que si on se remet dans le contexte du temps de Jésus, on ne parlait pas encore du mois de novembre. Qui sait pourquoi on ne parlait pas du mois de novembre ? Eh oui. Eh oui, on n'avait pas encore le calendrier de la réforme grégorienne de 1582. Il n'y avait donc pas de mois de novembre pour Jésus. C'est pas grave. Ça va quand même me permettre de continuer ma prédication. Mais avant de continuer à enchaîner sur ce fameux mois et le calendrier, je vous propose plutôt qu'on lise le texte de ce matin, qu'on trouve donc dans Matthieu, les versets 14 à 29. Et je vais lire dans la version Summer 2015. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est un long passage et il s'y passe plein de choses. Alors, restez accrochés. Ah, mais je le vois, oui. Alors, les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas ?» alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent. » Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le mari est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du mou qui fermente. Sinon, le vin nouveau les fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. » Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur dit « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Alors, ce passage, il grouille de vie, vous vous en rendez compte, et il y a beaucoup de différents acteurs. Et pas de chance pour vous, je donne des cours de lecture à l'université. Donc, pour m'assurer que vous avez bien été attentif au texte, est-ce que vous pouvez me dire les différents acteurs qu'il y a dans ce texte ? On a une femme, ouais. On a une fille, les disciples. Les aveugles. Le père de la fille, on a Jésus, quand même important celui-là. Ouais. Il en manque, dommage. On va donc tout relire. Donc rassurez-vous, je vous ai fait un magnifique schéma. Donc on a Jésus, les disciples de Jean, un responsable juif, les disciples de Jésus, une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, des joueurs de flûte, on a toute une foule. On a une petite fille et on n'a pas un, mais bien deux aveugles. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'histoires de vie. Et je vous propose qu'on analyse ça tous ensemble. Alors pour moi, ce texte, c'est un peu comme un miroir de nos vies. Personne ne peut dire « je n'ai qu'un seul rôle, qu'un seul objectif, qu'une seule direction ». Alors pour vous illustrer rapidement ça, je vais vous faire une brève liste de toutes mes casquettes disponibles. Alors je suis mariée, je suis étudiante en doctorat, je suis assistante des professeurs, donc ça veut dire que je donne cours, donc pour certains je suis professeur. Je suis la fille de mes parents, je suis la sœur de mes frères, la tata de mes deux nièces, prédicatrice quand je peux, responsable du cathé du dimanche, je suis patiente d'un bon nombre de médecins au HUG, et cette liste, elle pourrait continuer encore et encore. Et encore, moi je fais même pas tant de choses que ça, on a de la chance. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup plus de casquettes sur la tête que moi. Donc on est tous une panoplie de 1000 casquettes qu'on ajoute et qu'on enlève au fil de la vie, et on court dans tous les sens, constamment. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous déprimer, hein, rassurez-vous. C'est pour vous dire que Jésus, il avait tout autant de casquettes, et il arrivait à gérer. Et il courait aussi dans tous les sens, même littéralement, puisqu'il a quand même traversé pas mal de villes, il a beaucoup marché dans sa vie quand même. Et dans le passage qu'on a lu, Jésus, il est maître de ses disciples, enseignant, médiateur, pacificateur. Selon Google, ça veut dire une personne qui ramène la paix. Il réalise des miracles dans la rue et à domicile. Service impeccable. Et il est tout ça que dans les versets qu'on a lus. On peut lui rajouter énormément d'autres casquettes, comme fils de Dieu, fils de l'homme, messie et plus encore. Et déjà, être un maître pour ses disciples, c'est un énorme travail. C'est être un constant modèle, il faut prendre le temps de les former, on a la responsabilité d'eux, donc s'il y en a un qui a faim, il faut lui trouver à manger. C'est beaucoup quand même. Et donc, il prend le temps d'enseigner ses propres disciples, il enseigne les foules, et maintenant, il enseigne même les disciples d'autres maîtres, puisqu'il enseigne aux disciples de Jean dans ce passage. Et je me suis dit, moi, si un étudiant en doctorat venait pour me dire « écris ma thèse », puisque dans tous les cas, t'en écris une, bon, j'aurais dit non, je pense. Et en plus de ça, Jésus, il va sauver la vie de 3 personnes dans ce passage. Même 4, en fait. Et il continue, au passage, à être le maître de ses disciples, puisque ça ne s'arrête pas. Je crois que moi, à la place de Jésus, j'aurais craqué il y a bien longtemps. Déjà, j'ai du mal à gérer mon travail et m'occuper des plantes. D'ailleurs, je ne m'occupe plus de mes plantes. C'est mon mari qui s'en occupe. Quand il n'est pas là, c'est Denise ou ma maman. Donc bon, j'ai su m'enlever une casquette, celle des plantes, ce n'est pas la mienne. Et Jésus, lui, il nous montre que même dans la tempête de la vie et de ses aléas, eh bien, on doit aimer notre prochain et transmettre l'amour de Dieu en étant rempli de patience et d'attention. Donc Jésus, il ne s'arrête jamais non plus. Et ce n'est pas pour autant qu'il s'épuise et qu'il perd patience avec les autres. Et pourtant, on le sait que Jésus peut perdre patience et que Jésus peut s'énerver. Mais c'est généralement face à des affronts directs contre notre Seigneur ou face à des vraies injustices. On peut retrouver ça dans Matthieu 19, quand il s'énerve contre ses disciples parce qu'il essaye d'éloigner les enfants, ou quand il se retrouve dans le temple et qu'il retourne toutes les tables dans Matthieu 21. Et je crois qu'une des raisons qui fait que Jésus ne s'épuise pas et qu'il ne perd pas patience, c'est parce qu'il a le bon objectif en vue. Comme il est dit à la fin de Matthieu 9, au verset 37 et 38, « Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Alors pour ne pas nous laisser embrumer par tout ce qu'on a à faire dans nos vies, par les rythmes effrénés du métro, boulot, dodo, qu'on pourrait aussi dire vélo électrique, enfin, vous avez compris, nous devons, comme Jésus, garder en ligne de mire notre objectif principal qui, on a de la chance, nous a été donné très clairement par Jésus. À nouveau, il pense à tout. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si un jour vous les oubliez, ils sont dans Matthieu 22, les versets 37 à 39. On a donc dit qu'on vit dans une société où tout va vite. Et une des conséquences de cette effervescence constante, c'est qu'on ne sait plus vraiment regarder autour de nous et on n'est plus que capable de courir vers des objectifs. On est tellement surstimulé que c'est que le soir sous la douche ou quand on est à ça de s'endormir qu'on se met à réfléchir à tout ce qui nous est arrivé. Et moi, ça m'arrive souvent de ne pas réussir à m'endormir avant un long moment parce que mon cerveau tourne à mille à l'heure. Et je sais de source sûre que je ne suis pas la seule à qui ça m'arrive. Et une des manières de contrôler ce flux de pensée qui tourne et qui tourne et qui tourne, c'est justement de m'obliger à me concentrer sur autre chose. Donc je me mets une petite musique et au final, je m'empêche de penser. Ce drôle de cercle vicieux m'a fait prendre conscience que cet état, c'est ma zone de confort. Quand je prends le temps de souffler et de regarder autour de moi, je ne sais plus quoi faire et j'arrive plus à dormir. Et parce qu'on vit dans un monde où tout va vite, on est encouragé à penser toujours à demain. Le 31 octobre, il vient de passer et là, on nous met déjà tout ce qu'il faut pour Noël. Donc ça y est, on commence à réfléchir ce qu'on va manger à la fête. Comment on va s'habiller? Qui est-ce qu'on va inviter? Où est-ce qu'on va se retrouver? Il faut réfléchir aux cadeaux aussi. C'est jamais trop tôt de commencer à réfléchir. Alors qu'on se le rappelle, on est le 16 novembre. Donc on a le temps. Et je crois que c'est là qu'est le problème du mois de novembre. Ce mois de novembre, il nous fatigue autant parce qu'on n'a rien à faire en novembre. La seule chose qu'on a à faire, c'est se dire « Ouah, le changement d'horaire, c'est pas facile. » Et en plus, il fait froid. Et donc, on vit cette période comme un long tunnel où Noël et les fêtes du Nouvel An, c'est la ligne d'arrivée. C'est la libération. Alors que ce mois de novembre, il n'a rien demandé à personne. Et pourtant, vous vous en doutez bien, Jésus nous donne un autre exemple qui est forcément à l'opposé de ce que nous invite à faire la société. Jésus, malgré les mille choses à faire et à penser, il prend le temps de regarder ce qui l'entoure, sans se presser. Il adresse la parole aux passants, et il fait même plus. il aime et il transmet l'amour, même lorsqu'il est dans un moment de transition, comme l'est le mois de novembre pour nous. En effet, Jésus, il accepte d'aller sauver une petite fille d'un responsable juif. Alors, c'est pas n'importe quoi, puisque c'est pas juste un homme lambda, c'est un responsable juif, homme important. En plus, on s'en rappelle, la petite fille, elle n'est pas juste malade, hein, elle ne s'est pas écorchée le genou, elle est morte. C'est donc un miracle plus qui est demandé là. Donc on s'imagine hein, que tout le monde doit être en train de courir dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Et apparemment, tout le monde était d'accord, puisqu'ils étaient déjà en préparation des funérailles et tout, enfin, tout le monde courait. Et pourtant, Jésus il prend le temps de s'arrêter, parce qu'une femme touche la frange de son vêtement. C'est même pas sûr que nous, on s'en serait rendu compte que quelqu'un nous touche la frange de notre vêtement. Et Jésus, lui, il s'arrête, il lui adresse la parole, alors qu'à cette époque, adresser la parole à une femme qui a des hémorragies en plus, c'était pas la priorité. C'était pas le plus important. Et avec cet exemple, Jésus nous montre une fois de plus que tout compte. L'objectif final, il compte, qui était ici de sauver la petite fille, mais ça compte tout autant que les autres personnes croisées sur le chemin. Tout le monde mérite de recevoir l'amour de Jésus, que ça matche notre timing ou non. Et c'est là qu'à nous, ça risque de poser le plus grand problème, hein, parce qu'on aime quand même tout organiser et on aime quand tout roule. Mais alors, pour que tout roule, ça ne matche pas forcément avec ce que Jésus nous a dit, qui est « Aimez votre prochain ». Et il ne nous a pas dit « Aimez votre prochain quand vous avez le temps, quand ça ne dérange pas trop votre planning, et autrement, on trouvera un arrangement, vous aimerez le prochain. » C'est bon. Donc, malgré l'effervescence de nos vies, prenons le temps de regarder autour de nous et de vivre cet instant présent. Et pour finir, j'aimerais quand même vous rappeler l'importance de l'équilibre dans la vie. Alors on le sait tous, tomber dans les extrêmes, ce n'est pas bon. Il faut avoir un équilibre. Et je suis sûre que je ne vais pas être la première à vous dire une petite phrase qui est très à la mode, équilibre de vie. Alors c'est très à la mode, j'en entends parler de partout, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai cherché sur Google, et maintenant avec les IA, c'est même plus vraiment chercher, c'est juste lire le premier truc qui tombe. Hein. Et ça me dit, pour avoir un bon équilibre de vie, il faut intégrer des habitudes saines, comme une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, tout en gérant le stress. Il est également crucial de s'accorder du temps pour soi, pour des activités relaxantes, de bien identifier et hiérarchiser ses priorités et d'être pleinement présent dans les moments partagés. Ben voilà. Si Google le dit, faisons-le au final. Hein ? C'est tellement simple. Alors si cette liste, elle vous paraît un peu idéaliste, après... Si vous arrivez à le faire, n'hésitez pas à nous dire comment vous faites. Parce que bon, c'est pas aussi facile que ça hein, de faire ça. Alors moi, je vais vous proposer une alternative qui est de nous concentrer sur l'essentiel de nos vies. Donc ça va un peu réduire la liste puisqu'on va se concentrer sur Dieu. Alors si vous avez remarqué, chaque titre de partie était composé du verbe « regarder ». Il y avait « regarder en avant »,« regarder autour de nous » et maintenant « savoir regarder ». Alors, pourquoi « regarder » vous allez me dire. C'est mon côté linguiste. Eh bien, j'ai choisi ce verbe parce que « savoir regarder », ce n'est pas si facile. La définition de « savoir regarder », c'est porter son regard de manière volontaire, consciente et attentive sur quelque chose ou quelqu'un, ce qui va au-delà de la simple perception passive de voir. Et je crois que Jésus savait regarder. Il savait regarder, et au travers de la Bible, on peut un peu apprendre comment faire. Pour qu'on arrête de simplement voir et qu'on devienne actif en regardant consciemment. Alors je vous invite à ce que nous fixions nos regards sur Dieu, ayons comme priorité de nous approcher toujours plus de lui et de partager son amour au monde. Apprenons à regarder clairement notre objectif, notre prochain et nous-mêmes. J'aimerais encore prier pour terminer ce petit temps, si ça vous va. Seigneur, merci parce que on peut se retrouver devant toi et on peut en apprendre toujours plus sur toi. Seigneur, nous te prions vraiment que tu puisses nous apprendre à regarder et à regarder comme toi tu regardais. Apprends-nous à arrêter de courir aussi vite que ce qu'on court et à regarder autour de nous. Seigneur, on veut avoir les yeux fixés sur l'objectif le plus important qui est toi et ton amour. Seigneur, on veut apprendre à être plus présent, à regarder notre prochain, à aimer pleinement nos frères et sœurs et ce monde. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton amour chaque jour et je te prie que tu alimentes en nous ce feu pour qu'on puisse nous aussi transmettre cet amour aux autres. Amen.
Nous sommes accueillis, nous sommes les bienvenus. Nous sommes aussi accueillis à la table du Seigneur. Jésus qui a accueilli ses disciples, qui les a invités lors d'un dernier repas avec lui, à partager le pain, le vin, symbole de son corps, de son sang, qui a été donné pour nous tous, pour nos péchés. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes encore et encore invités à cette table pour partager ce repas, pour lui dire merci pour son amour, merci pour son sacrifice, pour lui demander pardon pour nos péchés. C'est une invitation et nous sommes libres de l'accepter ou non ce matin. Merci aux deux personnes qui se sont portées volontaires de s'approcher pour la distribution. Et puis pendant ce temps, je vous invite à prier librement si le cœur vous en dit. Merci Seigneur pour ce repas, merci pour ton sacrifice, merci pour ce rappel de ce que tu as accompli à la croix pour nous. Seigneur, tu nous donnes la vie en abondance, tu nous donnes le repos dans nos circonstances de vie, Seigneur. Merci parce qu'on peut s'approcher de cette table tel que nous sommes. Tu nous invites, tu nous accueilles, tu nous aimes. Amen. Voilà, et maintenant on va prendre une offrande. C'est une offrande, donc elle est libre. Et c'est pour les besoins de notre Église. Merci d'avance pour votre générosité. Merci. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et puis je prierai encore. Je lis dans Romains 15 au verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que nous puissions déborder cette semaine, non pas par nos propres forces, mais par l'action de son esprit en nous. Déborder sur nos voisins, nos collègues, nos amis. Et que cette espérance soit connue de tous. Soyez bénis cette semaine. Bon dimanche. Et puis n'oubliez pas de passer vers Annick, Xavier tout à l'heure, à la sortie. À bientôt.